vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Certains sont toujours en train de se demander ce qui se passe un 1er avril et pourquoi. C'est pas grave, vous réécouterez, vous aurez le temps de méditer, etc. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Vous êtes prêts? Hein? Alors, depuis quelque temps, eh bien, nous avons étudié le sujet qui se rappelle. Ah, bah dis donc, mieux que d'habitude, hein? Apparemment, ça a répondu à un besoin. Hein? D'accord. Alors, je n'ai pas fini avec avec ce sujet. Donc, on va continuer aujourd'hui. On en remet une couche. Et à vrai dire, on va le cerner. On va s'arranger pour que ce sujet-là soit bien compris. Parce que les offenses, vous savez qu'aujourd'hui, on lit dans les journaux qu'il y a des gens qui ont été tués, menacés, uniquement à cause de ce sujet, les offenses. À Albi, dernièrement, il y a un parent d'élève qui a été condamné à plusieurs mois de prison, dont la moitié avec sursis, je ne sais plus si c'est un an de prison et 6 mois, ou 6 mois et 3 mois. Mais en tout cas, la moitié de la peine, c'était de la prison ferme. Et c'était une directrice d'école qui a été menacée de mort parce que le parent d'élève était offensé. On voit des maris qui se tuent leur femme, des enfants qui se séparent de leurs parents, des employés qui n'arrivent pas à garder un travail, parce qu'ils vont d'offense en offense, en offense, en offense. Et ce que nous avons vu au cours de cette série, c'est qu'à vrai dire, l'offense est un sujet qui appartient aussi à cette génération de la fin des temps, c'est-à-dire de notre dispensation. Les gens sont beaucoup plus offensés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient même il y a 50 ans. Les blagues que l'on entendait il y a 50 ans faisaient rire. Les mêmes blagues aujourd'hui, eh bien, l'auteur serait traduit en justice pour racisme, antisémitisme, etc. Parce qu'il y a tellement de gens offensés, tellement de gens blessés, et apparemment, eh bien, notre génération n'arrive pas trop à régler ce problème des offenses. Donc, ils vont d'une offense à une autre offense. Hein. On a vu également que les offenses, eh bien, il y en a trois genres d'offenses. Il y a les offenses suite à que l'on a imaginé, alors qu'il n'y en avait aucune de réelle, mais en tout cas, elles font autant de dégâts que les réelles. Il y a des offenses qui sont non intentionnelles, accidentelles. Bien, vous blessez quelqu'un parce que vous ne l'avez pas invité à déjeuner. Aussi simple que ça, c'est très simple, hein. Parce qu'on n'a pas passé un coup de fil, on a oublié un rendez-vous, etc. On a oublié de saluer quelqu'un, peut-être quelqu'un ne nous a pas salué, et c'est vraiment dommage. Il y a un autre type d'offense, c'est-à-dire ce sont des offenses qui sont intentionnelles. Le but est vraiment de blesser la personne, de la ridiculiser, de la salir, etc. Elles sont plus rares, mais elles existent quand même. Bien, alors, le mot offense, que veut-il dire? C'est le mot grec scandalon, je ne sais pas comment on le prononce, mais en tout cas, pour nous, français, nous entendons bien scandale. Hein? C'est quelque chose qui va choquer, encore une fois. Peut-être que c'est imaginaire, c'est peut-être intentionnel ou pas, mais en tout cas, la personne va être scandalisée et va avoir la même réaction que quelqu'un qui est choqué, quelqu'un qui est vexé. Mais ce mot scandalon ne s'arrête pas au choc, si vous voulez, émotionnel, puisque le mot scandalon en grec veut dire parle d'un piège. Ce mot parle d'un piège. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, en se laissant offenser, quelle que soit la raison de celui qui l'a offensé, en tout cas, la personne qui va se laisser offenser, qui va s'approprier cette offense, qui va garder cette offense, va se trouver prise au piège, va tomber dans un traquenard que l'ennemi de son âme lui a tendu. Certains ont perdu la vie à cause des offenses. Il y a des familles qui ne se parlent plus depuis des générations, uniquement à cause d'offenses. Alors c'est un sujet qui divise des familles, qui divise des couples, qui divise des églises, qui divise les employés entre eux. Donc c'est un sujet qui vaut la peine d'être étudié comme il se doit. Dans Actes chapitre 24, nous avons déjà lu ce verset, mais nous pouvons le reprendre à nouveau. Donc, entre les Écritures, Marie-Pierre, assure-toi de mettre cette petite souris prise dans le piège, histoire que les gens s'en rappellent. D'ailleurs, je pense qu'à chaque fois que vous allez voir un fromage et, pour être plus précis, une vache qui rit, il ne s'agit pas d'une pub, mais d'un moyen mnémotechnique que j'ai laissé sur vos chaises fut un temps. Bien, j'espère qu'à chaque fois que vous en reverrez une, ou alors à chaque fois que quelqu'un est sur le point de s'offenser parce qu'il prend mal ce que vous lui dites, eh bien, vous pourrez lui dire « Attention, fromage !» Juste cela, ça devrait rappeler quelques souvenirs. Dans Actes chapitre 24, au verset 16, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « C'est pourquoi moi aussi je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu, devant les hommes. » En anglais, c'est une conscience qui est vide d'offense envers Dieu et envers les hommes. Donc ici, bien sûr, il est question d'offense envers Dieu, d'être offensé par les hommes, mais la Bible nous dit aussi qu'il est possible d'être offensé par Dieu. Se laisser offenser par Dieu, se pourrait-il que Dieu offense quelqu'un ? Alors, nous allons continuer dans ce sens-là, parce que la dernière fois, nous avons vu que oui, il y a des personnes qui sont offensées par Dieu. On reprendra tout à l'heure les raisons, mais j'aimerais vous rappeler Matthieu chapitre 11, verset 6. C'est Jean-Baptiste, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, qui est en prison, non pas parce qu'il a commis des erreurs, parce qu'il est sorti de la volonté de Dieu, mais au contraire, servant Dieu, faisant ce qui est juste, il s'est retrouvé en prison. Les théologiens sont d'accord pour dire qu'à ce moment-là de sa vie, en prison, Jean-Baptiste était offensé envers Dieu. Il envoie des messagers vers Jésus, et le message qu'il leur fait porter, c'est « Seigneur, es-tu vraiment le Messie ?» C'est-à-dire que Jean-Baptiste est arrivé à un moment de sa vie où il remet en question la raison de son service. Il remet en question la personne du Seigneur. Et nous, chrétiens, eh bien, il y a des moments où nous remettons les choses en question. Ça n'est pas mal de faire le point. Je vous assure que vivez suffisamment longtemps et à un moment, vous allez être arrivé à un stade de votre vie où vous allez faire le bilan. Et ceux qui ont quelques cheveux gris disent « Oui, mais ça n'est pas mauvais. C'est bon de faire le bilan. C'est bon de se demander ce que l'on a fait de sa vie. C'est bon de se demander ce qu'il reste à faire. Il est bon également de se demander « Mais pour quelle raison ai-je fait ce que j'ai fait et vais-je continuer dans cette voie ?» C'est bon. Pourquoi ? Ben parce que si on trouve ne pas être dans la bonne voie, on peut rectifier. Donc c'est bien. Hein? Mais il y a des personnes qui ne savent pas comment gérer leur bilan. Il y a des personnes qui ne savent pas gérer leur marche avec Dieu et qui vont abandonner le Seigneur. Regardez avec moi dans... Matthieu chapitre... Ah ben non, je n'ai pas lu Matthieu 11, verset 6. Et je vais terminer, tout à l'heure on ira au chapitre 26. Mais dans Marc chapitre 11, verset 6, le Seigneur dit « Heureux celui pour qui la doctrine ne sera pas une occasion de chute. » Non. « Heureux celui pour qui l'Église ne sera pas une occasion de chute. » Le mot « occasion de chute » étant scandalon, c'est-à-dire ce qui fait trébucher, un scandale, un piège, une occasion de tomber. Mais Jésus est en train de dire, eh bien, il est possible que j'offense des gens. Vous savez pourquoi il y a des gens qui ne sont plus dans les églises aujourd'hui ? Parce qu'elles ont été offensées par Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir dans Matthieu au chapitre 26. Alors, c'est le soir de son arrestation et Jésus parle à ses disciples et il dit « Je serai pour vous tous » Matthieu 26, verset 31. Il dit « Je serai pour vous tous cette nuit » donc le soir où il allait être arrêté « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Je serai pour vous tous cette nuit un scandalon. Je serai pour vous tous une occasion de trébucher. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Jésus allait être frappé pour nous et les brebis, ses disciples, n'allaient pas le supporter, allaient se laisser offenser parce qu'ils n'avaient pas prévu que les choses se passent ainsi. Vous est-il arrivé dans la vie de faire la volonté de Dieu, de croire que certaines choses allaient se passer ainsi que vous l'aviez reçu dans votre esprit, et patatras, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Et les disciples ici se trouvent dans une situation où ils avaient bien sûr, hein, les disciples ce sont des juifs, ils connaissaient Ésaïe 53, ils savaient que le Messie viendrait, les rachèterait de leurs péchés. Ils savaient que le Messie allait sauver le peuple d'Israël, notamment ils savaient qu'ils étaient la lumière des nations, mais ils n'avaient pas prévu la croix, ils ne croyaient pas à la croix telle qu'elle était dépeinte dans les Écritures, prophétisée des centaines d'années avant. Et ici, ils sont face à l'arrestation du Seigneur, et la Bible nous dit que quand le berger est frappé, les brebis se dispersent. Juste une parenthèse, c'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens doivent prier pour leur berger. Voilà. Alors, quand Jésus dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, un scandalon, une occasion pour vous de tomber dans un piège », il n'était pas en train de leur dire « Vous trébucherez parce que vous allez heurter contre un caillou », non. Mais il voulait dire par là « Vous allez avoir une occasion de m'abandonner, de vous enfuir et de me trahir ». Quelqu'un qui tombe dans un piège, dans le piège de l'offense plus précisément, c'est quelqu'un qui peut être soumis à la tentation d'abandonner sa marche avec Dieu. C'est quelqu'un qui peut être tenté de s'enfuir devant l'épreuve, de s'enfuir devant ce qu'il ne comprend pas. C'est quelqu'un qui peut être tenté de trahir, de renier sa foi. Et nous avons tous lu ce qui s'est passé avec Judas. Que s'est-il passé? Eh bien, Judas, c'est quelqu'un qui a trahi le Seigneur. Vous vous rappelez de cela? Il a vendu le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Mais que s'était-il passé avant? Avant, Judas avait été offensé. Parce que Jésus avait dit, eh bien, prenez de l'argent que nous avons dans notre caisse et donnez-en aux pauvres. Et Judas s'est offensé en disant, mais au revoir. Et Judas s'est offensé dans Luc, au verset 32 de Matthieu 26. Judas a renié le Seigneur parce qu'il avait été offensé par ce que Jésus voulait faire avec les finances du ministère. Encore un autre sujet. Combien de chrétiens n'ont pas quitté des églises, n'ont pas été offensés en disant « Oui, mais tu comprends, moi je pense qu'on ne devrait pas gérer l'église de la sorte, on devrait faire ceci, on devrait faire cela, mais l'équipe pastorale est d'accord, mais le chrétien est offensé, donc qu'est-ce qu'il fait? Il préfère partir. » Donc, si vous voulez, ce sujet de l'offense n'est pas un sujet qui est nouveau, mais c'est un sujet qui perdure. C'est un sujet qui amène les gens à changer la course qu'ils ont avec Dieu, uniquement parce qu'ils sont tombés dans le piège des offenses. Alors, nous avons lu ici que le Seigneur dit, je serai pour vous tous. Tu sais, Jésus parlait au plus fort des chrétiens de l'époque. Ils avaient marché avec lui pendant 3 ans et demi. Ils avaient vu des miracles. Ils avaient été témoins de la prophétie que le Messie viendrait, le roi des Juifs viendrait. Ils avaient entendu la parole vivante parler. Ils avaient reçu des conseils de Dieu. C'était l'équipe la mieux équipée qui ait jamais été, qui ait jamais existé. Et malgré cela, le Seigneur leur dit, « Je serai pour vous tous une occasion de chute. » On se rappelle ce qu'il est dit dans Luc chapitre 17, où le Seigneur dit, « Il est impossible qu'il n'y ait pas des offenses. » C'est-à-dire, nous sommes tous, un jour ou l'autre, eh bien, soumis à la tentation de l'offense, de s'offenser, de rester offensé et de perdre des connexions, perdre du temps, se tromper, arrêter de marcher avec le Seigneur, tous. Et franchement, je ne crois pas que les chrétiens soient préparés suffisamment à cette réalité. Parce que quand nous arrivons au Seigneur, eh bien parfois on a l'impression, « Oh, ça y est, j'ai donné ma vie au Seigneur, je vais au ciel une fois que je quitte cette terre, alors cela veut dire plus de problèmes sur cette terre pendant que j'y suis. » Et non. Toi, tu as changé, mais la terre, elle est toujours ce qu'elle est. Le péché est toujours présent sur cette terre. Donc, on va se rappeler que Jean-Baptiste nous dit, eh bien, Jésus a dit à Jean-Baptiste de ne pas se laisser offenser. Paul dit, je dois m'efforcer de garder une conscience vide d'offense devant le Seigneur. Ce qui veut dire que ça n'est pas quelque chose qui vient naturellement, surtout quand on est offensé. Alors, vous dites, mais comment savoir si je suis offensé? Il va falloir revenir pour cela. Ce n'est pas le sujet, mais je vais vous donner des clés pour identifier les points qui vont vous permettre de diagnostiquer une offense dans votre vie. Si vous êtes offensé, vous allez reconnaître. Et puis surtout, eh bien, je vais vous aider à surmonter ces offenses parce qu'il ne s'agit pas de mettre la lumière sur quelque chose qui est à vaincre. Encore faut-il que vous sachiez comment vaincre. Mais nous avons vu pourquoi les gens se laissent offenser, non seulement par les hommes, mais se laissent offenser par Dieu. Eh bien, la première raison, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de la loi de Moïse. Ils ne comprennent pas qu'ils ne sont plus sous cette loi, et parce qu'ils ne comprennent pas cela, ils croient que Dieu les punit parce qu'ils ont péché, ils croient que Dieu les a rendus malades parce qu'ils n'ont pas lu leur Bible pendant 10 minutes alors qu'ils l'avaient promis à Dieu le 1er janvier. Ils croient que Dieu leur en veut parce qu'ils n'ont pas prié, parce qu'ils ont changé d'église, etc. Et il n'en est rien. Cette mentalité est une mentalité légaliste. Et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont offensés, eh bien, par Dieu parce qu'ils ont des difficultés à accepter que Dieu est bon et qu'il nous a placés sous sa grâce. Nous n'avons rien à mériter, ce qui veut dire que Dieu veut bénir celui qui ne mérite rien, de chez rien, autant que celui qui a marché avec lui depuis 40 ans. Et ça, quelquefois, les chrétiens ont des difficultés. Dit comment se fait-il que celui-là, il vient juste d'arriver à l'église, il ne comprend rien du tout, regarde. Il y a tout qui se déroule devant lui, on dirait qu'il marche sur un tapis rouge, il y a tout qui lui réussit. Mais quand on pense de la sorte, eh bien, on est mûr pour se laisser offenser par la grâce de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Hein. L'argent a été donné aux pauvres. Lui pensait qu'on pouvait faire autre chose. Judas pensait qu'il fallait donner l'argent aux pauvres plutôt que de laisser cette femme gaspiller ce parfum. il a été offensé par la manière dont l'argent a été géré, par la manière dont Jésus a reçu cette offrande. Mais le résultat, c'est que quelques chapitres plus loin, que s'est-il passé? Il a trahi, il est tombé dans le piège de l'offense et il a trahi, il a renié le Seigneur. Une autre raison pour laquelle il est possible que l'on soit offensé par Dieu, eh bien, c'est parce que l'on ne sait pas distinguer les différents types de souffrances. Ah, ça peut être intéressant. Regardez avec moi dans Galates chapitre 6, versets 8 et 9. Il est dit ici, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair quoi ? La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et puis, il continue avec le fait que nous devons continuer à faire du bien aux autres, etc. Mais ici, il y a de toute façon un principe qui est décrit dans le livre de la Genèse, qui est « nous récoltons ce que nous semons ». Alors, concernant la souffrance, eh bien, il y a un genre de souffrance. Une des raisons pour laquelle nous souffrons, c'est que nous avons semé parfois de la stupidité. Tu sais, quelqu'un qui, à chaque fois qu'il rentre dans un magasin, se croit obligé d'acheter, va semer des problèmes financiers, va semer la dépense et va récolter des problèmes financiers. Ce ne sera pas la faute de Dieu, ce ne sera même pas la faute du diable, il n'aura pas besoin de cela. C'est une chose si quelqu'un a énormément d'argent, mais la moyenne n'a pas cet argent-là, au point d'acheter tout ce qu'il voit. Donc, quelquefois, eh bien, il faut être guidé par l'Esprit de Dieu, il faut faire preuve de maîtrise, il faut faire un budget, etc. Mais il est certain que si quelqu'un sème ce genre de choses dans sa vie, il va récolter et il va en souffrir. Et puis peut-être qu'il n'y a pas que lui qui va souffrir, sa famille va souffrir. Ce qui me fait dire que si vous êtes célibataire et vous n'avez pas la maîtrise de l'argent, attendez pour vous marier. Et ça, c'est une parenthèse que je referme. C'est certainement pour quelqu'un qui va écouter par Internet. D'ailleurs, je salue les amis qui écoutent les messages par Internet. La bonne nouvelle les salue. Par exemple, si quelqu'un passe son temps à semer la colère, d'après vous, qu'est-ce qu'il va récolter ? La solitude. Peut-être un œil au beurre noir de temps en temps. Mais en tout cas, il y a de grandes chances que cette personne va récolter la solitude. Donc, si vous voulez, ça, c'est un type de souffrance qui n'est dû qu'à ce que l'on sème, au choix que l'on fait, au mauvais choix que l'on fait dans la vie. Si quelqu'un mange n'importe comment, n'importe quoi, à n'importe quel moment, il y a de grandes chances que sans l'aide du diable, eh bien, il récolte des problèmes de santé. Donc, ça, c'est un premier type de souffrance qui nous rend assez responsables dans les choix que nous faisons. La Bible nous dit dans le Proverbe chapitre 21, verset 5, je vais vous lire la version Semeur, « Les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. » Là, un autre genre de semence, quelqu'un qui passe son temps à prendre des décisions à la hâte. Tu sais, c'est le genre de personne qui ne te laisse pas finir ta phrase et qui a la réponse avant que tu aies fini de poser la question et qui se demande pourquoi sa réponse est à côté de la plaque. Donc, là encore, quelqu'un qui prend des décisions à la hâte, la Bible nous dit, il va récolter la disette ou le dénuement, c'est-à-dire le manque. Encore une fois, il y a des décisions que nous prenons pour nous seuls, comme par exemple le fait de manger, mais indirectement, eh bien, nous affectons notre famille, nous affectons les personnes qui travaillent avec nous. Il y a un autre type de souffrance, par exemple, il y a un autre que j'ai marqué, c'est quelqu'un qui ne sait pas résister à la pression. Si quelqu'un ne sait pas résister à la pression, eh bien, il va semer la panique dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il va récolter? Il y a de grandes chances qu'il récoltera des échecs. Il y a cette émission The Voice. The Voice. Et parfois, il y a des candidats, mais qui ont un talent extraordinaire. Mais ils sont paniqués, ils n'arrivent pas à avoir une bonne image d'eux-mêmes. Ils vont se présenter, ils sont pétrifiés, le talent est bien trop comprimé, bien trop compressé dans cette personnalité. Et que va récolter cette personne-là ? Ben un échec. Donc la pression, ça c'est encore quelque chose. Il y a différents domaines. Alors pendant que je parle, il y a de grandes chances que le Saint-Esprit soit en train de vous parler de vos propres récoltes dans votre vie. De mes propres récoltes dans ma vie. Donc ça, c'est un type de souffrance. Maintenant, il y a un autre type de souffrance qui est dû à la présence du péché sur terre. Regardez dans Romains chapitre 5, nous connaissons ce verset. Donc nous sommes en train de nous demander pourquoi les gens, ou comment, pour quelles raisons les gens peuvent-ils se laisser offenser par Dieu ? Parce qu'ils ne comprennent pas la loi de Moïse. Ils peuvent se laisser offenser par Dieu parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la grâce de Dieu. Mais ils peuvent se laisser offenser par Dieu parce qu'ils ne comprennent pas qu'il existe différents types de souffrances et que Dieu n'est pas responsable de tout ce qui se passe et que notamment il y a des souffrances que nous avons dans la vie parce que nous avons fait des mauvais choix. Mais il y a encore des souffrances que nous pouvons expérimenter dans la vie à cause de ce qui s'est passé. Romains chapitre 5, verset 12, il est dit « Le péché est entré dans le monde par un seul homme. » Je vais lire ici. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Quand Adam, l'être humain, a choisi de désobéir à Dieu, quand il a choisi de faire sa vie indépendamment de Dieu, eh bien le péché est entré dans le monde, une nature spirituelle contraire à celle de Dieu, qui domine celui qui la reçoit. Mais ce n'est pas simplement la nature du péché qui a sévi, c'est qu'elle elle n'est pas venue toute seule. Avec elle, avec le péché, est venue la mort physique, la séparation d'avec notre corps, est venue la maladie, est venue la confusion, est venue la suspicion, est venue la colère, sont venus les tourments, etc. Donc le péché, quand il est entré dans le monde, a amené avec lui eh bien, toute une ribambelle de souffrance. Ben, ça c'est sur terre. Et non seulement c'est venu par Adam, lui-même en a souffert, de certaines de ces choses immédiatement, mais en plus ça s'est propagé à toute la race humaine quand la race humaine s'est multipliée dans le sang, par le sang, ces choses-là se sont étendues à toute la race humaine jusqu'à aujourd'hui. Donc, à cause du péché originel, eh bien, il y a la présence de la maladie. Donc ça c'est encore une autre raison de souffrir. Bon, la bonne nouvelle quand même, c'est que nous savons que le Seigneur est celui qui a porté nos maladies à la croix. Il a porté notre confusion, il a porté nos tourments, il a porté notre pauvreté, parce que dans 2 Corinthiens, il est dit que Jésus est devenu pauvre afin que nous soyons enrichis. Jésus est devenu péché afin que nous soyons justes. Jésus a porté nos maladies afin que nous soyons en bonne santé. Vois-tu, pour bien comprendre la croix, il faut que tu comprennes que Jésus était notre substitut. Il prenait notre place dans cette souffrance. Mais pour un autre type de souffrance, Jésus est notre exemple. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais été ton exemple pour être racheté des péchés en étant malade. Est-ce que tu comprends? Jésus est allé à la croix, Jésus a souffert, mais il y a des souffrances qu'il a portées pour que tu ne les subisses pas. Tout ce qui est lié à la rédemption. Par exemple, le fait d'être séparé de Dieu. Eh bien, cette souffrance, personne n'a besoin de la vivre. Quand nous sommes sans Jésus, eh bien, oui, nous sommes séparés d'avec Dieu. Mais une fois que nous avons accepté le Seigneur, nous sommes un avec lui. Nous n'avons plus besoin de souffrir ce genre de choses. Par exemple, quelqu'un qui a accepté le Seigneur dans sa vie n'a plus besoin de souffrir la maladie. La maladie, parfois, va se présenter, les symptômes vont frapper à la porte et on doit leur dire « Non, 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 vous ne rentrez pas ici, vous restez dehors parce que Jésus a porté mes maladies. » Le pardon, eh bien, nous avons été pardonnés à la croix. Personne n'a besoin de souffrir du non-pardon, c'est-à-dire d'être traité par Dieu comme, un bâtard. Ça n'arrivera jamais parce que nous avons tous été pardonnés. En revanche, regardez avec moi dans 1 Pierre chapitre 2. Donc nous sommes en train de comprendre les différents types de souffrances qui existent de manière à ne pas se laisser offenser par Dieu en croyant que le type de souffrance auquel je fais face vient de lui. Il me semble que certains vont devoir réécouter le message ce matin. 1 Pierre chapitre 2. Regardez avec moi à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Et nous allons voir un autre type de souffrance. Donc, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Oui, si on a commis une faute et on a une amende, tant pis pour nous. Il n'y a aucune gloire là-dedans. Si quelqu'un a volé et qu'il doit rembourser et puis payer des dédommagements, tant pis pour lui. Dans cette souffrance qu'il expérimenterait, il n'y a aucune gloire. Mais, quelqu'un dit mais, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, est-ce possible? Est-ce possible? Est-il possible? Non, pas nous les chrétiens quand même. Pas nous, c'est pas possible. Nous avons accepté le Seigneur, tout doit bien aller pour moi. Quelle erreur! C'est ce qui est appelé l'évangile à l'eau de rose. Non, il nous est dit, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, la Bible dit c'est une grâce devant Dieu. Et un des mots qui est synonyme de grâce, c'est faveur. On continue. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Dis à ton voisin, tu viens de savoir quel est l'appel qui est sur ta vie. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de leur appel. Oh, tu sais, moi je suis appelé à prêcher. Je suis appelé à être pasteur. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. La première chose que je veux demander à ces gens, sais-tu que tu as été appelé à souffrir pour ce qui est bien? Je suis sûre que ces gens, on ne les revoit plus du tout là. Il dit, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. Dans d'autres versions, il est dit, ce sont les souffrances de Christ. Christ n'a jamais souffert de la maladie. Jésus n'a jamais souffert de la pauvreté. Jésus n'a jamais souffert de la confusion. Jésus n'a jamais souffert d'un mauvais choix qu'il aurait fait. Nous sommes d'accord. En revanche, Jésus a souffert. Et il a souffert ce genre de souffrance. Souffrir quand on fait ce qui est bien, souffrir quand on fait la volonté de Dieu. Et il nous est dit que c'est là l'exemple que Christ nous a laissé. Christ ne nous a pas laissé l'exemple de quelqu'un qui souffre de la maladie pour acheter un péché. En revanche, Christ est l'exemple que nous suivons, que nous cherchons à imiter. On ne fait pas, on n'appelle pas la souffrance dans notre vie, mais quand on y fait face parce qu'on a fait ce qui est bien, parce que nous sommes dans la volonté de Dieu, alors nous devons accepter cette souffrance-là. Et personnellement, je ne connais aucun chrétien qui soit exempt des souffrances de Christ. Aucun. Il est dit, afin que vous suiviez ses traces, lui, ah ben c'est intéressant, lui qui n'a point commis de péché. Alors on sait qu'en général, Christ n'a point commis de péché, mais remarquez qu'ici, il est question de souffrir pour ce qui est bien. C'est-à-dire que quand il a souffert, au lieu de se laisser offenser et de renier le Père, ce qu'il pouvait faire parce qu'il avait sa propre volonté, au lieu d'abandonner sa marche avec Dieu, au lieu de changer sa course, au lieu de fabriquer sa propre destinée, ce qu'il aurait pu faire, au lieu de dire « Seigneur, j'arrête là », il disait qu'il avait des légions qui étaient à sa disposition, des légions d'anges qui auraient pu le sauver de la croix. Et il est dit « Afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché » et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, verset 23. Lui qui injuriait. Ah ! Eh bien, ça, c'est une des souffrances. Être injurié, être sali dans notre réputation, être accusé de je ne sais quoi. Tout simplement parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous servons Christ, parce que nous refusons de falsifier les comptes d'une comptabilité, parce que nous refusons une promotion canapé, parce que nous refusons de tricher, parce que nous refusons d'être dans toutes sortes d'embrouilles de ce monde. Il est dit, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces. Ah ça c'est dur. Quand tu as quelqu'un qui te coupe la route, bon c'est pas forcément pour Christ, hein. Mais ça, c'est dur. Attends au prochain feu rouge. Non. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Une des manières de vaincre l'offense, c'est d'en se remettre à quelqu'un de plus haut. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Donc nous pouvons vivre pour la justice en bonne santé. Nous pouvons vivre pour la justice sans être offensés si nous comprenons les différents types de souffrances qu'il y a dans ce monde. Mais mes amis, toi et moi, nous sommes appelés à accepter ce type de souffrance de Christ, c'est-à-dire que quand nous nous trouvons dans une situation dans laquelle Dieu nous a voulu, par exemple, eh bien, je me souviens avoir entendu parler de quelqu'un à l'école biblique, quelqu'un qui avait une très bonne position dans une banque. Le Seigneur l'a appelé à l'école biblique, donc il est venu à l'école biblique avec toute sa famille, ils ont suivi la formation, donc ils ont changé complètement leur train de vie. Et ensuite, le Seigneur les a envoyés dans un champ missionnaire, mais dans un pays sous-développé. Cette école biblique, je l'ai faite aux États-Unis. Donc, vous passez des États-Unis ou vous passez de la France dans un pays qui est sous-développé et vous vous retrouvez sur une route défoncée à bicyclette, alors que vous aviez peut-être une superbe voiture routière, croyez-moi que vous souffrez. Tu as une seule ampoule dans la pièce. Et tu manges la même chose 4 jours par semaine, tu souffres. C'est à ce moment-là que certains se sentent appelés ailleurs. Ah ben non, mais parce que le Saint-Esprit nous sauve. Attention, il ne faut pas croire. Le Saint-Esprit nous sort de là. 3 jours après, ah, la volonté de Dieu. Ah mais Dieu m'a dit d'aller ailleurs. Je me sens appelé à retourner. Je me sens appelé à faire autre chose. parce qu'ils ne sont pas capables de s'identifier aux souffrances de Christ, ils ne comprennent pas que c'est le genre de souffrance. Quand Dieu dit « fais quelque chose », tu fais quelque chose. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Dieu ne te demande pas toujours ton avis. Les trois quarts du temps, d'ailleurs, il ne le fait pas, heureusement. Parce que le monde ne serait pas en couleur, il serait en noir et blanc. Allez, 1 Pierre chapitre 3. Vous êtes avec moi là? C'est bon, je peux continuer? Ou certains disent « Pasteur, je souffre ». Moi aussi, je me sens appelée à rentrer à la maison tout de suite. Voilà, merci. 1 Pierre chapitre 3. Regardez ce qu'il est dit au verset c'est 17, c'est ça. « Car il vaut mieux souffrir. » Oula, 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 oula. Non, pasteur, pas pour nous, pas sous la grâce. Justement, d'après toi, pourquoi crois-tu que la grâce est donnée? Tu sais, c'est parfois difficile pour les chrétiens de vivre leur foi dans une famille qui n'ont pas encore accepté Christ. Très difficile. Toujours, pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Pourquoi est-ce que tu vas servir? Pourquoi est-ce que tu vas donner ceci? Pourquoi est-ce que tu vas faire cela? Pourquoi est-ce que tu vas à cette conférence? Pourquoi tu ne peux pas? Et à un moment, ces souffrances-là, il va falloir que tu les regardes bien en face. Et où tu te laisses offenser par elles, tu te laisses offenser par Dieu, où tu continues à marcher avec Dieu, en disant « Mon Dieu, tu vas prendre soin d'eux. » Il est dit « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien, pas en faisant le mal. Si tu souffres en faisant le mal, si tu souffres parce que tu exploses à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais, tu vas récolter ce que tu as semé. Mais ici, il est dit « En faisant le bien, tu es dans la volonté de Dieu et tu souffres. » Alors ne te laisse pas offenser par cela. Alors ne t'offense pas contre Dieu en disant « Après tout, moi Seigneur, j'ai rien demandé. » Et le Seigneur t'aurait dit d'ailleurs « Tu as raison, je t'ai rien demandé. » Je n'ai pas demandé ton avis, je t'ai juste dit « Va dans cette église. » « Ouais, mais Seigneur, tu comprends, moi j'aime pas, il y a ça. » Dis-moi, tu es Dieu? Car il vaut mieux souffrir. Si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Il nous est dit au verset 18 que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Pourquoi Christ a-t-il souffert? Et Thémazo? J'aime la souffrance. Non? La Bible dit que la raison pour laquelle il a souffert toutes ces injustices, c'était pour nous amener, tu sais, à Dieu. Quand nous souffrons parce que nous sommes dans la volonté de Dieu et que nous acceptons de continuer à marcher avec Dieu, alors Dieu utilisera ces souffrances pour amener d'autres à Dieu. Mais très souvent, les chrétiens... Oh, ils ont la peau sensible. D'ailleurs, on ne peut pas leur dire grand-chose parce qu'il n'y a pas d'amour dans cette église. Puis c'est bizarre, ils arrivent dans une autre église. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Tu veux pas retirer ton pouce et puis grandis un peu. Grandit un peu. Non, il est dit qu'il a souffert, la raison pour laquelle il a accepté la souffrance. Moi, je me souviens avoir, quand j'ai débuté dans le ministère, oh là là, tout l'enfer s'est déchaîné contre moi. Tout l'enfer s'est déchaîné contre moi. C'était « Bienvenue dans le ministère. Engagez-vous », qu'il disait. J'avais été prévenue avant, mais je n'avais pas trop perçu la profondeur de la prophétie. Ça peut arriver, hein. Surtout qu'au début, j'ai cru que c'était pour d'autres. Donc, pour vous dire à quel point mon niveau d'interprétation était juste sur ce coup-là. Mais je me souviens qu'il y avait un ministère qui avait commencé à me soutenir financièrement et qui avait dit, bien, on va régler ce loyer. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, du jour au lendemain, ils ont décidé d'arrêter. Alors, je vais juste vous dire ceci. Si vous soutenez un ministère, eh bien, dites dans 6 mois ou dans 1 an, sachez que nous arrêterons de faire ceci ou cela. Parce que vous devez donner du temps à ceux qui comptent sur cette rentrée d'argent de pouvoir s'organiser, d'exercer leur foi autrement, etc. D'accord ? Donc, on ne peut pas... C'est exactement comme si votre employeur vous disait, tiens, vous allez demain au travail, lundi, et vous dit, tu sais, à partir de ce soir, tu ne travailles plus ici. Voilà, c'est exactement la même chose. Et puis, donc, ce qui veut dire que dans l'urgence, j'ai dû m'organiser pour trouver un autre logement. Et le seul logement que mes finances, à l'époque, me permettaient d'avoir, c'était un logement qui était situé dans une rue à côté dans laquelle il y avait un ferrailleur. Si quelqu'un connaît ce que peut faire la poussière de la ferraille, c'est noir et c'est gras. Ça va partout et c'est l'horreur. L'horreur. Le chauffage, c'était juste des petits grille-pains, mais c'était trop pour moi de payer cette facture d'électricité. Donc je les mettais, mais au minimum, au minimum, au minimum. Quand j'étudiais à la maison, c'était avec ma robe de chambre, tellement j'avais froid l'hiver. Eh bien, j'aurais pu me laisser offenser par Dieu, et je vais vous dire que l'occasion s'est bien présentée à moi. Je vais dire, comment ça, Seigneur? Regarde un peu, en plus, en pleine force de l'âge, j'avais quoi, 30 ans, 31 ans. Seigneur, je pourrais être en train de faire autre chose, je pourrais être en train de bien gagner ma vie, je pourrais être en train de faire ceci et faire cela, et je pourrais acheter ma maison, et non, je te sers, et regarde où je me trouve. Ben oui, mais la raison pour laquelle je devais rester dans le ministère, c'était pourquoi? C'était pour qui? J'aurais pu me laisser offenser par Dieu. Plusieurs fois, ça m'est arrivé dans ma vie de saisir des occasions, mais vraiment, j'aurais presque pu justifier ces offenses. Mais à un moment, il y a un choix à faire, où on accepte les souffrances de Christ, ou alors on choisit de faire les choses à notre manière. Et mes amis, c'est l'échec. C'est silencieux ici, hein? En pleine méditation. Regardez avec moi dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Est-ce que l'on commence à comprendre les différents types de souffrances qui existent? La souffrance à cause du péché originel. Mais ça, Christ là, s'en est occupé à la croix. On n'a pas besoin de souffrir ces choses-là. La souffrance à cause de nos mauvaises décisions. Eh bien, au moins, prenons une bonne. Une bonne. Quelquefois, on accumule les mauvaises décisions. Il suffit d'une bonne décision. Et paf, on part dans le sens inverse. Gloire à Dieu. Demandons à Dieu la sagesse et ne faisons pas les choses précipitamment, etc. Mais il y a un autre type de souffrance et c'est l'appel de l'Église sur cette planète Terre. C'est accepter de souffrir même quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Parce que nous faisons ce qui est bien, parce que nous choisissons de croire en la parole, parce que nous choisissons de nous ranger du côté de la vie de Dieu. Alors regardez, versets 12 et 13, et ici il nous est dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Ici cette version dit, « Ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » Les gens, la manière dont ils réagissent à l'épreuve, à la souffrance, on a l'impression qu'ils sont les seuls sur cette terre à vivre ces choses. Oui, mais tu ne comprends pas. Moi, c'est unique. Personne n'a vécu ce que j'ai vécu. Et qu'est-ce que tu as de plus que les autres, toi? 4 bras? Mais il est dit, réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ. Ah ah! Donc la Bible nous dit que non seulement nous devons les supporter, mais nous devons nous réjouir d'avoir part à ses souffrances, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. » Un jour, il y avait un pasteur. C'est pas mon exemple, mais ça aurait pu être mon exemple. J'aurais pu mettre mon nom, c'était exactement Kif Kif, parce que je l'ai déjà fait. Et ce pasteur-là, il n'en pouvait plus. Il était mais dans les souffrances, tu sais, quand tu as la pression. Tu as la pression, par exemple, les factures sont sur le point d'être réglées et l'argent n'est pas là. Ça t'est déjà arrivé? Non, il n'y a que dans les églises que ça se passe, ce genre de choses. Bien, d'accord. Ce pasteur, il n'en pouvait plus, et puis il crie au Seigneur, et il dit « Ah, Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur ?» Et il entend le Seigneur qui dit « Et pourquoi pas toi ?» Et pourquoi pas toi? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Tu sais, c'est dur de faire ce qui est juste. Et oui, c'est dur de dire ce qui est juste quand on a l'occasion de mentir. Quand on a l'occasion de dire, tu sais, celui qui te donne la moitié de la phrase, il y en a qui sont experts. Il te donne la moitié de la phrase en croyant que toi, tu vas comprendre autre chose que ce qu'il essaie de dire. Tu ne peux pas toujours dire ce que tu penses, mais parfois, tu n'as pas envie de souffrir face à ce que l'on te raconte. Continue à sourire. Alors écoute-moi, si tu es parent, si tu es grand-parent, apprends aux enfants à souffrir. Marc me dit précise, mais oui, parce que... Apprends aux enfants à souffrir. Non, je ne parle pas de maltraitance physique, bien évidemment. Mais tu sais, si tu as décidé que ce que ton enfant te demande n'est pas bon pour lui, apprends-lui à souffrir en ne le recevant pas quand il en a envie, comme il en a envie. Si ton enfant n'a pas envie de dire bonjour aux adultes, bonjour à quelqu'un, à son prof ou quoi, eh bien, il n'y a aucun problème. S'il souffre une remarque, arriver à la maison devant ses frères et sœurs en disant, tu sais quoi, c'est la dernière fois que tu me mets la honte. Quand je te dis, tu dis bonjour à tes grands-parents, tu dis bonjour à tes grands-parents. Et d'ailleurs, je dis à tous ceux qui ont un grand-père ou une grand-mère surtout, c'est la fête des grands-mères aujourd'hui. Alors, si vous ne voulez pas l'offenser, quoi que ce serait son problème, mais quand même. Eh oui, parce que les fêtes sont des occasions d'offense, il faut quand même s'en rappeler. Hein. Mais apprends ce genre de souffrance à tes enfants, et plus tard, il aura cette capacité d'endurer la souffrance. Quelqu'un qui ne sait pas endurer la souffrance, c'est quelqu'un qui se roule par terre, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut, et il se demande pourquoi il est seul. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 12, 14 et 15, « D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ, seront persécutés. » Mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal, ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. Ce qui me fait dire que si tu apprends quelque chose, si tu apprends, alors tu seras capable d'être ferme, de rester ferme dans l'épreuve. Ceux qui prennent à la légère la parole de Dieu sont les premières victimes de leur choix. Ils n'ont aucune résistance. Quand vient le moment de la souffrance, il dit « Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. » Et il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce sont les écritures qui vont t'aider à rester ferme. » Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit « Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage. » J'ai vaincu le monde. Philippiens chapitre 3, versets 3 à 10, mais je vous lirai uniquement ce verset. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances. Ça n'est pas de la croix qu'il parle. C'est d'accepter de souffrir quand on est dans la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, il dit bien, je veux bien connaître ce genre de souffrance. Tu sais pourquoi ? Parce que quand tu connais ce genre de souffrance, de rester célibataire quand tu n'es pas encore marié, tiens, parce que je viens de l'entendre, au lieu de te précipiter sur n'importe qui et de le regretter pendant toute ta vie, tu sais ce qui se passe ? Quand tu acceptes les souffrances pour faire ce qui est juste, l'apôtre Paul le savait, il avait entendu, « Ma grâce te suffit. » Là, dans la souffrance, tu vas expérimenter la grâce de Dieu, le secours de Dieu, l'équipement de Dieu, comme tu n'aurais jamais su que c'était possible d'expérimenter. Et là, tu te trouveras grandi, fortifié et capable, tu seras capable de recevoir plus de responsabilités et de révélations de Dieu. Tu sais, ce n'est pas une bénédiction de ne pas savoir résister à ce genre de souffrance. Ça garde dans l'immaturité et ça garde loin de la destinée de Dieu. C'est-à-dire que nous devons être préparés à souffrir pour Christ, avec Christ. Et l'Église n'est pas préparée à ça. L'Église est préparée à la victoire, l'Église est préparée à vaincre, l'Église, oui. Mais si on ne fait pas attention, on peut ressembler à des gamins gâtés pourris qui, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent comme ils veulent, eh bien, ils lâchent tout, ils crient, ils hurlent, ils laissent tout tomber et on ne les voit plus. De quoi parlons-nous ? Du fait de ne pas se laisser offenser. Du fait de ne pas s'offenser. Qu'est-ce qu'on dit ? Contre Dieu ? J'entends plusieurs phrases. Bah, écoutez, vous l'avez la phrase, gardez-la pour vous. Hein. Ne pas se laisser offenser par Dieu. Alors, nous avons le pain et le vin qui nous attend. Et je pense que c'est une bonne occasion pour chacun de dire, me serais-je offensé contre Dieu ? Est-ce que j'en voudrais à Dieu ? Est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle je ne serais pas passé ? Y aurait-il quelque chose dans ma vie de quoi je l'ai rendu coupable ? Peut-être que c'était ma faute. Peut-être que c'est parce que c'est moi qui ai fait le mauvais choix. Peut-être que je me suis précipité. Peut-être que j'ai souffert parce que tout simplement, il y a le péché dans ce monde et que je n'ai pas compris ce qui était mien dans ma rédemption. Ou peut-être que l'on se dit, j'ai souffert là parce que c'était dans la catégorie des souffrances de Christ. Et que dans le fond, il n'y a pas de problème. Est-ce que moi aussi, dans le corps de Christ, j'accepte ces choses afin d'amener les autres à Christ. Et pendant que nous gardons cela à la pensée, les autres, combien c'est précieux, les autres, nous allons bénéficier de ce choix parce que nous grandirons, nous deviendrons beaucoup plus mûrs, beaucoup plus stables, beaucoup plus forts. Le Seigneur sera capable de nous confier davantage. Parfois, ça veut dire davantage d'âme, davantage de révélation, davantage de biens matériels, davantage d'influence, davantage d'autorité. Vous savez, l'Église doit entendre ces choses-là. Oui, nous sommes une Église de la foi et oui, nous prêchons la victoire en Christ, mais pas sans les souffrances de Christ. Et nous ne devrions pas nous offenser contre Dieu parce que nous souffrons alors que nous sommes dans la volonté de Dieu. Tous ceux qui souhaitent prendre le pain et le vin se lèvent. Et par la foi, laissons ça. Là où ça doit rester, dans la mer de l'oubli. Donc, Seigneur, oh là là, je me rappelle que je me suis offensée contre toi Et ça a déclenché chez moi une réaction et j'ai dit plus jamais. Voilà ce que je viens d'entendre. Plus jamais.
C'est enregistré.
Quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Quelqu'un qui a fait un vœu. Ça, c'est pas le genre de vœu que l'on dit forcément en voix haute, mais on dit plus jamais. Et ce plus jamais là peut coûter des destinées en Christ. Alors nous allons prendre le pain et le vin et croire que dans ces éléments qui symbolisent la rédemption, ces éléments qui parlent de qui nous sommes en Christ, de ce que le Seigneur a fait pour nous, eh bien, acceptons cette victoire sur l'offense. Amen, parce qu'elle est nôtre.